VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Mali, fin cet après-midi des affrontements à Tombouctou dans le nord du pays, dû à l'attaque d'un camp de la mission onusienne MINUSMA ce matin par des djihadistes présumés. Bilan selon les sources sécuritaires, au moins 3 islamistes tués, 3 militaires maliens blessés et un autre décédé. Pour le film des événements, écoutons Yaya Tanjina, journaliste à l'ORTM à Tombouctou, son témoignage au micro de Mohamed Touré.
Aux environs de 6h du matin, il y a eu une première explosion. C'était juste à l'ex-base du FPI, l'unité des policiers du contingent nigérian qui intervenait au nom de la MINUSMA à Tombouctou. Et il s'est avéré que ce contingent avait déménagé il y a juste une semaine. Alors donc un véhicule kamikaze était rentré qui s'est fait exploser. Et finalement, l'armée malienne a scindé tout le coin, c'est-à-dire tout le site. Et il y avait des éléments infiltrés finalement qui ont été abattus par les forces armées maliennes. Donc 3 djihadistes ont été tués. Un officier de l'armée malienne a été tué également, le commandant Nyang, qui dirigeait le bataillon El Farouk. Et lui aussi, c'est suite à une fausse manœuvre parce que un perdien qui tirait sur sa cible et finalement a touché un mur, et c'est ce mur qui est tombé sur l'officier. Donc voilà comment ça s'est passé.
Le calme est-il revenu dans la cité des 333 saints?
Oui, depuis vers 10h, les populations, malgré quelques petits tirs à tort, là je savais que c'était des tirs de ratissage de l'armée malienne, mais les populations ont retrouvé un peu la confiance, les gens sont sortis, le marché a repris. Je ne veux pas dire qu'il y a eu classe, il n'y a pas eu d'école, l'administration également a été paralysée, mais les populations sont sorties aller au marché, les quelques bouchers ont pu vendre leur viande, voilà.
Yekia Tanjina, journaliste de l'ORTM à Tombouctou, dans le nord du Mali. Heure de vérité au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Tiéba s'adresse aux députés burkinabés pour présenter sa déclaration de politique générale. La nouveauté cette année, sa déclaration sera suivie d'un vote de confiance à l'Assemblée. Si Paul Tiéba n'obtient pas la majorité requise, le chef de l'État est obligé de se trouver un autre Premier ministre. Mais pour le journaliste Bourayma Ouédraogo, le président Rochmar Christian Kabore n'a pas de souci à se faire.
En principe, il ne devait pas avoir de souci au regard de la large coalition que le parti au pouvoir a pu construire pour l'Assemblée nationale, et surtout aussi avec les arrangements politiques qu'il y a eu pour répartir les différents postes de responsabilité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a eu une petite croix actuellement au sein du parti au pouvoir, mais ça ne devrait pas logiquement avoir un impact par rapport à la validation de la nomination du Premier ministre de l'ensemble politique en général.
Le journaliste burkinabé Bourayma Ouédraogo. Et puis au Niger, le couvre-feu en vigueur dans la région de Difa, près de la frontière du Nigeria, allégé en raison de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 février. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le maire de Difa, Ankoraou Birikassoum. Mesure prise par les autorités suite à la demande formulée en ce sens par les partis politiques. La campagne électorale qui s'est ouverte samedi dernier doit s'achever à la veille du scrutin du 21 février. Rappelons que le 29 janvier, Niamey avait prolongé de 3 mois l'état d'urgence dans la région de Difa où l'armée nigérienne peine à contenir les incursions meurtrières du groupe islamiste nigérian Boko Haram.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, le gouvernement congolais et la MONUSCO soignent leurs relations après des périodes de mésentente. La pomme de discorde se trouvait dans la différence d'approche dans la traque des forces rebelles dans l'est du pays. Plus de détails avec Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, qui a mal digéré certains propos du sous-secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, précise ici les contours de cette reprise des coopérations.
Le concept de la collaboration consiste désormais en un appui de la MONUSCO aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en cas de besoin. Il ne s'agit donc pas d'opérations conjointes des deux forces.
À la MONUSCO, on précise que les divergences ont été aplanies et que l'heure n'est plus à la polémique. Félix Prosper Bass est porte-parole militaire de la MONUSCO.
Dans toute forme de relation, qu'elle soit conjugale, amicale, familiale ou fraternelle, qui avait des hauts et des bas, et nous avons connu cette période de hauts et de bas qui est dépassée. Ces divergences ont été aplanies. Nous n'avons pas cessé de faire le plaidoyer pour la reprise effective de ces opérations.
Rappelons que la MONUSCO avait suspendu son appui au FRDC dans les opérations des tracts d'FDF l'air après les refus de Kinshasa de sanctionner deux généraux accusés de violation des droits de l'homme. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En RCA, de nouveaux cas d'abus sexuels impliquant des soldats de la MINUSCA, la mission onusienne, signalés par Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York. Il s'agit de 8 femmes, parmi lesquelles des mineurs de 13 à 14 ans qui auraient été victimes de viols et d'abus sexuels dans la région de Bambari, située au centre du pays. Les explications du directeur de Human Rights Watch à New York, Philippe Bolopion, au micro de Félix Yepassi Zembrou.
On sait que au moment de ces viols, ce sont des soldats de République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville qui étaient déployés dans cette région. Et donc c'est maintenant à l'ONU, mais aussi à la justice de ces deux pays, de remonter la trace et de trouver les auteurs de ces viols. L'ONU a immédiatement informé les autorités centrafricaines de ces faits. Et donc elles vont, elles-mêmes suivre avec beaucoup d'intérêt les efforts qui sont faits à la fois par l'ONU, mais aussi par les pays contribuables. De troupes pour identifier les auteurs de ces viols.
Philippe Bolopion, directeur de Human Rights Watch à New York. Crise au Burundi, les experts de l'ONU accusent le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Le point avec John Lyndon.
Selon un rapport confidentiel obtenu jeudi par l'AFP et l'agence Reuters, ces experts ont interrogé 18 réfugiés burundais, dont 6 mineurs, qui ont fourni des informations sur leur entraînement dans un camp au Rwanda l'été dernier. Ils ont déclaré que leur but ultime était de chasser du pouvoir le président burundais Nkurunziza, indique le rapport qui a été transmis au Conseil de sécurité. Les réfugiés qui se sont rendus en RDC Congo ont indiqué aux experts qu'ils avaient été recrutés dans le camp de réfugiés de Mahama dans l'est du Rwanda en mai et juin 2015. L'entraînement comprenait des tactiques militaires, l'utilisation et l'entretien de fusils d'assaut et de mitraillettes, ainsi que des sessions d'endoctrinement idéologique, indique le rapport. Le Burundi, en pleine crise depuis avril 2015, a accusé à plusieurs reprises son voisin rwandais de soutenir des rebelles qui tentent de renverser son gouvernement. Le Rwanda a rejeté toutes ces accusations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant. Après sa visite mercredi dans une mosquée de Baltimore dans l'État du Maryland, le président américain Barack Obama a pris part hier au traditionnel déjeuner de prière organisé chaque année ici à Washington. Les précisions d'Anastasie Toudiech.
Le président américain a saisi l'occasion pour expliquer comment ses convictions religieuses l'ont aidé dans son travail à la Maison-Blanche et comment sa foi l'aide à surmonter les peurs de tous les jours.
It is a primal emotion. Fear, one that we all experience.
La peur est une émotion primitive dont nous avons tous l'expérience. Elle peut se propager à travers les sociétés et les nations. Si nous la laissons nous consumer, ses conséquences peuvent être pires que toute menace extérieure.
Can be worse than any outward threat.
Le chef de l'exécutif a parlé ouvertement des sujets qui le tracassent. Par exemple, la sécurité de sa fille Malia lorsqu'elle s'en ira à l'université dans quelques mois, ou encore l'envoi de soldats américains dans des opérations militaires à l'étranger. La peur de l'inconnu peut mener à de mauvaises décisions, a-t-il souligné, en citant le cas de certains hommes politiques américains qui ont appelé à interdire l'entrée du pays aux réfugiés syriens et à d'autres immigrants.
Just yesterday, some of you may be aware, I visited a mosque in Baltimore.
Pas plus tard qu'hier, certains d'entre vous le savent peut-être, je me suis rendu dans une mosquée de Baltimore pour faire savoir à nos frères et sœurs musulmans américains que eux aussi sont américains et les bienvenus ici.
And welcome here.
Barack Obama avait déclaré aux membres de la société islamique de Baltimore que les Américains forment une même famille au-delà des différences religieuses et autres. Le président Obama a clôturé la rencontre de jeudi par une prière.
Je prie pour que nous honorions notre obligation d'être de bons serviteurs de la création de Dieu, cette belle planète. Je prie pour que nous voyons chaque enfant comme le nôtre, digne de notre amour et de notre compassion. Et je prie pour que nous répondions à l'appel des Écritures à nous lever pour la justice.
And to stand up for justice.
Il faut préciser que c'était la dernière fois que M. Obama participait à la rencontre annuelle de prière en tant que chef de l'exécutif, son mandat à la Maison-Blanche s'achevant en janvier prochain.
Et pour terminer, les primaires démocrates ici aux États-Unis, le ton entre l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton et le sénateur du Vermont Bernie Sanders est monté d'un cran jeudi soir dans leur débat. Le sénateur du Vermont, qui prêche une révolution politique, est donné largement en tête dans les sondages portant sur l'État du New Hampshire, site des prochaines primaires. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.